Radio Kapi. Oh, Kapi.
Les titres de ce journal, après l'étape de Goma, la première ministre de la RDC est arrivée ce samedi à Bunia, en Ituri. Judith Soumino va faire le point avec différentes couches de la population en vue d'évaluer l'état de siège instauré depuis plus de 3 ans dans cette province. Vous allez l'écouter dans ce journal. Le magistrat dépose une plainte contre les rédacteurs du rapport final des États généraux de la justice. Ils ont été mandatés par 4 syndicats de magistrats de mener des actions syndicales et judiciaires contre ce qu'ils qualifient de fraudes et falsifications dans la rédaction du rapport final des États généraux de la justice. Mateus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, est notre invité. Il revient sur la 2e édition du comité de coordination des sites Kokosi Élargi Maniema, Sankuru Tchopo, qui s'est clôturé le lundi 18 novembre dernier à Kindu. Bonsoir à toutes et à tous. La première ministre Judith Soumino est arrivée à Bunia, en Ituri, ce samedi en début d'après-midi. Au cours d'un point de presse sur place, la chef du gouvernement congolais a déclaré, je cite, « Je suis venue faire le point de la situation de l'état de siège en Ituri après l'étape de Goma au Nord Kivu. Au regard de la situation actuelle, garder le statu quo ou changer les choses ?» Fin des citations. Dans son agenda, elle va rencontrer les comités provinciaux de sécurité et les forces vives de l'Ituri. Judith Soumino est au micro d'Isaac Remoyope.
C'est un plaisir pour moi de fouler de nouveau la terre de Bunia parce que il fut une époque où je venais souvent. Maintenant, en tant que première ministre, c'est la première fois. Je viens ici après une étape que je viens de faire à Goma parce que le chef de l'État nous a demandé, à la suite de l'ordonnance qu'il avait signée l'année dernière en 2023 sur les mesures d'atténuation de requalification de l'état de siège, de venir faire le point de situation et voir si, tenant compte de la situation actuelle, on garde le statu quo ou bien s'il faut revoir les choses. Donc c'est pour ça que je suis venue accompagnée de représentants, de députés nationaux, ainsi que de sénateurs, membres de la commission défense et sécurité, ainsi que de quelques membres du gouvernement qui m'accompagnent et où nous allons pouvoir rencontrer les forces vives de l'Ituri. D'abord, on va commencer avec le gouverneur militaire. On rencontrera probablement le conseil provincial de sécurité et toutes les forces vives de l'Ituri. Et sur cette base-là, nous pourrons faire des recommandations au chef de l'État.
Une foule nombreuse et des membres des différents partis politiques ont fait les déplacements à l'aéroport de Bunia pour accueillir cette forte délégation composée d'une dizaine de ministres et des parlementaires. Cependant, au Nord Kivu, la situation humanitaire s'est sérieusement dégradée au cours des 3 dernières années d'état de siège dans cette partie est de la RDC. Propos vendredi soir à Goma du coordonnateur des opérations humanitaires en RDC. Bruno Lemarquis l'a dit au sortir de la rencontre entre la communauté humanitaire et la délégation de la première ministre Judith Soumino Tuluka. Pour lui, le nombre de déplacés internes au Nord Kivu a augmenté de plus d'un million par rapport aux chiffres des devant l'institution de l'état des sièges. Bruno Lemarquis, dans ses propos recueillis par Bernardin Nyangui.
On a donné quelques chiffres sur l'est de la RDC, notamment au Nord Kivu. Donc un total de 6,4 millions de personnes, de Congolais, de Congolaises qui sont déplacées dans leur propre pays, dont 2,7 millions au Nord Kivu. On a fait la comparaison en 2021, avant la mise en place de l'état de siège, avant la résurgence du M23, il y avait 1,8 million. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de plus de déplacés depuis les 3 dernières années. Une crise qui est vraiment une crise de protection, une crise qui est également caractérisée par les violences basées sur le genre et les violences sexuelles dans le contexte des conflits, avec des chiffres qui n'arrêtent pas d'augmenter, notamment dans les sites de déplacés autour de Goma, où les gens en vivent dans une très grande précarité. On a parlé de tous les efforts qui sont faits par les humanitaires pour alléger ces souffrances. La réponse n'est pas à l'échelle. Il y a des problèmes de moyens, vu l'ampleur des besoins. Je pense que ça a permis de répondre à certaines des questions, notamment des députés nationaux.
En RDC, près de 26 millions de personnes sont toujours confrontées à des niveaux de crise ou d'urgence de l'insécurité alimentaire, selon les derniers rapports du cadre intégré des classifications de la sécurité alimentaire IPC. La violence armée, la poursuite des conflits et la flambée des prix des denrées alimentaires figurent parmi les causes principales de cette situation alarmante, notamment pour les personnes déplacées et les retournées. Parmi les millions de personnes touchées, 3,1 millions sont en insécurité sécurité alimentaire d'urgence, rapporte l'IPC dans cet outil coordonné par le PAM, la FAO, l'UNICEF et d'autres partenaires qui évaluent et classent la gravité de l'insécurité alimentaire. Les provinces de l'Est, notamment les Nord-Kivu, les Sud-Kivu et l'Ituri, sont toujours les plus gravement affectées avec 702 000 personnes en situation d'urgence. Dans l'Ouest, les conflits du Maïndombe continuent d'affecter les provinces du Kwilu, du Kwango et du Maïndombe, tandis que les territoires de Kwamout dans cette région rejoignent ceux de l'Est comme Nyunzu, Kongolo et Masisi qui affichent les taux d'insécurité alimentaire les plus élevés du pays. 10 morts, des blessés et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan encore provisoire des inondations pluvieuses survenues dans la nuit de vendredi à samedi 23 novembre 2024 dans les villages d'Nkoubi en territoire des Kalehe. Nkoubi est une entité située près des Nyabibwe, groupement Binga Nord, chefferie de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Les cadres de concertation de la société civile de ce territoire qui rapportent la nouvelle indiquent que parmi les 11 victimes, deux corps ont été retrouvés, tandis que 8 autres sont encore ensevelis sur les lieux du drame. Delphine Birimbi ajoute à ses bilans humains la destruction d'une trentaine de maisons à la suite de cette catastrophe naturelle. Il a été joint par Ronéline Tibonera.
Le bilan provisoire fait état de 2 corps déjà repêchés, 8 autres corps engloutis dans les décombres, 3 blessés, 7 maisons emportées avec tous les biens, 31 maisons endommagées, une station de la coopérative agricole de café Kaseko détruite, plusieurs champs et actifs agricoles dévastés et d'autres emportés par les éboulements. Nous sommes sur place en Kubi avec la population, les secouristes de la Croix-Rouge, d'autres jeunes volontaires, avec un enjeu des FRDC en pleines activités de recherche de 8 autres corps engloutis dans les décombres. C'est pourquoi nous demandons l'intervention de tout un chacun pour repêcher les restes des corps de nos frères qui continuent à traîner dans la boue.
Cet incident survient plus d'une année après les inondations pluvieuses survenues au mois de mai 2023 à Nyamukubi et Bushushu dans le territoire des Kalehe. Selon les bilans officiels, plus de 400 personnes avaient perdu la vie lors de ces drames environnementaux. Justice. Le magistrat ont déposé hier vendredi leur plainte contre les rédacteurs du rapport final des États généraux de la justice au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Cette plainte est initiée par 4 grands syndicats de magistrats, à savoir Justice indépendante, JUSI, Syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC, Syndicat chrétien des magistrats du Congo, SINCREMAC et Syndicat de magistrats du Congo, SIMCO. Ils ont été mandatés par leur assemblée générale extraordinaire tenue le 19 novembre de mener des actions syndicales et judiciaires contre ce qu'ils qualifient des fraudes et falsifications dans la rédaction du rapport final des États généraux de la justice. La plainte vise Maître Aimé Kilolo, rapporteur général des travaux des États généraux, ainsi que toute l'équipe rédactionnelle du rapport pour falsification présumée. On écoute à ce sujet le président des JUSI, Gaël Yimbiwete, est au micro de Jeff Ngoy.
À l'unanimité, les magistrats dans l'Assemblée avaient décidé que nous devions déposer une plainte parce que nous avions constaté que le rapport qui avait été lu lors de la clôture des assises des États généraux de la justice au Palais du Peuple ne reflétait pas la réalité. Raison pour laquelle nous nous sommes décidés de pouvoir saisir le procureur général pour que les auteurs de cette forfaiture soient sévèrement sanctionnés au regard de la loi. Nous l'avions déposé contre Maître Kilolo et toute l'équipe de la rédaction du rapport final des États généraux de la justice. Nous devons rester cohérents dans notre démarche. Nous disons qu'il y a eu une équipe de rédaction finale qui a rédigé le rapport. Alors, lorsque nous constatons qu'il y a des faussetés, nous ne devons pas dire que nous visons le ministre ou que nous devons porter plainte contre le ministre. Nous portons plainte contre les auteurs de la rédaction du rapport final des États généraux.
Justice toujours. Le ministre de la Justice demande à l'IGF, à la CNRF et l'ANR d'ouvrir une enquête sur l'acquisition d'un immeuble par les procureurs généraux près la Cour de cassation, Firmin Vondé, à Bruxelles, pour 900 000 euros depuis le 20 juin de cette année. Constant Mutamba dit avoir fait la découverte de cette acquisition à travers le média et a sollicité des enquêtes pour éclairer l'opinion sur ces faits. Il nous revient du parquet général que le ministre n'a pas compétence pour initier une telle enquête sur un chef des corps, si ce n'est que le chef de l'État. Jeff Ngoy pour les détails.
Sans nier les faits, le cabinet du procureur général qui parle d'un chantage provenant de ses détracteurs affirme avoir bel et bien sollicité et obtenu auprès d'Equity BCDC de 750 000 euros dont le taux d'intérêt est de 10% l'an. Frais de mise en place 1% et remboursement en ayant 24 mois à partir du mois de juillet passé. Et l'argent serait déjà logé dans le compte du vendeur de l'immeuble à Bruxelles, conformément au contrat conclu avec la banque. Le détracteur ne sait rien du fonctionnement de banque, et surtout que le prêt est à rembourser selon un délai convenu. C'est quand même logique si l'on tente d'étendre les entrées du PG sur ces délais. C'est triste, réagit le parquet. D'après ce dernier, un journaliste d'Africa Intelligence a voulu faire chanter le procureur après avoir découvert le document de la banque. Sollicitant en vain un entretien avec le procureur, il a menacé de le publier. Mais quant à la question de savoir avec quel revenu mensuel Firmin Vond peut acheter une parcelle à ce prix, la réponse c'est que l'origine de fonds est un prêt et l'échéance du remboursement peut être rallongée.
Autre nouvelle, dans la ville de Beni au Nord Kivu, 19 détenus dont 4 militaires de FRDC ont été libérés vendredi 22 novembre à la prison centrale de Beni. Elles étaient détenues pour des faits bénins, notamment des vols simples ou encore des violations des consignes pour le militaire. C'est après les plaidoyers du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH de la MONUSCO, dont les directeurs est en visite dans la région et de l'auditorat militaire. Guylaine Kassassia pour Le Point.
L'auditeur militaire qui a présidé cette cérémonie a demandé aux détenus libérés d'éviter la récidive. Dans les cas contraires, ils seront arrêtés de nouveau et mis aux arrêts. Cette libération rentre dans les cadres de la politique gouvernementale de désengorgement des prisons. Patrick Vahan, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Tout le travail qu'on doit faire dans le cadre du désengorgement des prisons. Et donc ces libérations font suite au plaidoyer du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Pour ces détenus qui ont recouvré leur liberté, cette libération était cadeau tombé du ciel.
J'étais détenu en 2022 avec motif que j'étais chef d'échec. C'est motif qu'on m'avait collé parce que j'avais de mauvaises compagnies. J'ai beaucoup souffert ici des demandes aux autres de cesser avec des bavures pour ne jamais arriver ici. Je ne voudrais plus revenir ici. Je vous remercie pour m'avoir libéré. Je ne m'y attendais même pas. C'est vraiment un miracle.
La prison de Beni compte actuellement plus de 4100 détenus pour une capacité d'accueil de 250 places. Mardi, 6 personnes ont été libérées de cachots de la police à Ouicha, chef-lieu du territoire de Beni, toujours après le plaidoyer de la MONUSCO. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Campagne électorale à Massimanimba, dans la province du Kwilu. La police vient d'arrêter deux jeunes garçons qui vandalisent les affiches et banderoles des candidats députés nationaux et provinciaux. Ils ont été surpris au quartier Kimbanseke en train de déchirer plusieurs banderoles et affiches des candidats dont Micheline Kulumba et Paul Luasango. La société civile locale pense que de tels actes risquent encore de semer les désordres dans le territoire pendant cette période électorale et appelle à des sanctions sévères contre ces délinquants. Messa Athanase est le coordonnateur du cadre des concertations de la société civile. Il s'est livré à Irène Mbomaluzolo.
C'est une période de la campagne. Nous sommes en train de dire chaque jour à la radio, nous sommes en train de sensibiliser. Nous disons que personne ne puisse faire donc un mal pareil. Mais ces jeunes-là, ils sont des inciviques. Ce sont des jeunes qui cherchent à provoquer encore que Massimanimba puisse retomber dans les chaos, que l'État puisse les prendre en charge. Ils sont tombés dans l'infraction, que l'infraction puisse donc les punir. S'ils sont manipulés, mais c'est à l'État qu'ils vont donc dénoncer ça. S'ils sont manipulés, et celui-là donc, l'État puisse donc les suivre. Parce qu'on ne peut pas favoriser ça. Ça non, l'État dit non qu'il y ait les élections à Massimanimba pour la première fois en RDC. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est là, comprenons-moi, il va exciter encore donc la haine des autres, non? J'ai dit si ce sont les politiciens qui cessent avec le système là, mais si ce ne sont pas les politiciens, que les jeunes et même les jeunes désœuvrés, ils voient peut-être que donc après avoir fait n'importe quoi, et ils peuvent trouver une solution, ah, qu'ils soient sanctionnés donc par la loi. Nous voulons un Massimanimba uni, un Massimanimba de paix. Nous ne voulons pas un Massimanimba divisé, un Massimanimba de désordre. Ça nous disons non, ça nous n'acceptons pas, mais nous disons que nous sommes donc en paix, tout Massimanimba uni, tout Massimanimba pour le développement. C'est ça notre souhait.
Actualité internationale.
L'Union européenne a décidé de rappeler son ambassadeur à Niamey après des critiques émises par la junte nigérienne sur la gestion de l'aide humanitaire. Les autorités de transition accusent l'Europe d'avoir redistribué sans consultation ni transparence un fonds de 1,3 million d'euros destiné aux victimes des inondations de 2024. Cette aide aurait été allouée directement à des organisations non gouvernementales internationales. Les fortes précipitations enregistrées cette année au Niger, avec jusqu'à 200% d'excédent de pluie, ont provoqué des dégâts majeurs, notamment à Agadez, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors que Bruxelles affirme vouloir maintenir son soutien, la junte a ordonné un audit pour examiner l'utilisation de ces fonds.
L'invité.
La population de la province de la Tchopo est appelée à prêcher, à cultiver et vivre à la paix pour espérer au développement de cette province. Cet appel est du président de l'Assemblée provinciale de cette province à l'issue de la deuxième édition du comité de coordination des sites Kokosi, Élargi, Maniema, Sankuru, Tchopo qui s'est clôturé le lundi 18 novembre dernier à Kindu. Ces assises organisées par l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCM avaient pour objectif, entre autres, de permettre à l'équipe dirigeante du parc national des Lomami de renforcer ses mesures de cohabitation pacifique entre les gestionnaires des sites et les communautés riveraines. Le député provincial et président de l'organe délibérant de la Tchopo, Mateu Kanga, s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur le député Mateu Kanga, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de participer à ces assises de ICCN où le parc national de la Lomami passe aussi par la province de la Tchopo. Selon vous, qu'est-ce qui devait être fait pour qu'il y ait bonne gouvernance du parc national de la Lomami?
Bon, il faut dire que le parc national de la Lomami ne passe pas seulement par la province de la Tchopo. La province de la Tchopo couvre plus de 80% du parc national de la Lomami. Donc, quand on parle du parc national de la Lomami, premièrement, on voit la Tchopo qui a la plus grande étendue de ces parcs. Alors, par rapport la bonne gouvernance, je crois que déjà avec les assises ici, nous avons tous compris que les gestionnaires de ces parcs étaient pour une gestion collective, avec la participation de toutes ces provinces. Voilà pourquoi dans le cadre de cette réunion du comité de coordination des sites, toutes les provinces ont été concernées, la Tchopo, le Maniema, y compris même les Sankuru, qui regorgent une partie de la zone tampon. Certes, pas la partie intégrale du parc, mais la zone tampon. Et dans tout ça, le parc a quand même voulu les intéresser aussi. Ça voudrait dire vraiment que les gestionnaires du parc sont très ouverts pour faire participer tout le monde. C'est déjà un signal positif vers la bonne gouvernance de ces parcs.
Du côté de la Tchopo, il y a toujours eu des cas d'insécurité. Est-ce que vous avez pris des mesures cette fois-ci dans cette rencontre pour que ce genre d'insécurité ne puisse pas s'enregistrer?
Bon, je crois que c'est parmi les points qui ont été traités. Et nous avons même plaidé, quand nous avons pu plaider pour la province de la Tchopo qui a pu rater beaucoup d'opportunités suite au problème de sécurité. Vu que la province de la Tchopo, à un moment donné, a connu le conflit communautaire Lengo-Lambole, entraînant ainsi une recrudescence d'insécurité dans la zone du parc qui est située dans la province de la Tchopo. Alors, c'est ainsi que nous avons pris cet engagement d'aller sensibiliser les différentes communautés de la province de la Tchopo avec les différents députés provinciaux. Non seulement les députés provinciaux, mais aussi, en ma qualité de président de l'Assemblée provinciale, je vais, de ce fait-là aussi, mobiliser le gouvernement provincial pour qu'à son tour, il puisse mobiliser le comité provincial de sécurité afin de pouvoir accompagner le parc national de la Lomami dans la réalisation de ses objectifs, mais aussi pour que la province de la Tchopo puisse réellement tirer profit de ces parcs.
Vous pensez qu'avec les conclusions ici de cette rencontre, une fois mise en application, sera avantageux pour le parc national de la Lomami et la province de la Tchopo?
Oui, nous osons croire. Nous osons croire parce que nous avons amené également des plaidoyers par la même occasion. Nous pensons qu'au vu de l'état d'esprit que nous avons rencontré sur place ici, dans ces assises, ça nous donne foi. Ça nous pousse à croire qu'il y a lieu d'espérer, il y a lieu de croire à ce qu'il y aura des retombées positives pour l'année 2025, parce que vous savez qu'on est également là pour adopter les plans opérationnels 2025 et que toutes les entités concernées par les parcs ont été prises en compte. Nous croyons que notre province également tirera au maximum profit de ces parcs et pourquoi pas à l'issue de l'année 2025 voir les lignes bouger en vue de pouvoir faire adhérer la population de la Tchopo dans l'état d'esprit de ces parcs et faire adhérer également la population de la Tchopo dans les initiatives qui sont organisées par les parcs. Comme élite du peuple, notre rôle, c'est de pouvoir notamment conscientiser la population. Et donc, comme je l'ai dit, nous avons raté beaucoup de projets du parc national de la Lomami et de l'ICSN suite à l'insécurité. Donc, c'est le moment pour nous de nous dire que nous ne devons plus continuer sur le même chemin et de prêcher la paix. C'est ce que nous allons faire avec les élites des deux territoires, d'Ubundi et d'Opala, pour aller sensibiliser les deux communautés afin qu'elles puissent fumer les calumets de la paix.
Monsieur le Président, vous vous engagez à sensibiliser la communauté. Seule la sensibilisation suffit pour qu'il y ait un retour de paix parce que ce sont les intérêts qui font en sorte qu'il y ait conflit d'intérêts et tout dans cette zone.
Non, ce ne sera pas seulement la sensibilisation. Je crois que l'ICSN avec le Parc national de la Lomami se sont également engagés à entreprendre des actions sur le terrain pour attirer la communauté, pour faire comprendre à la communauté que le parc est là pour également l'intérêt de la communauté. Mais au-delà de ça, comme législateur, nous avons également le devoir de mettre sur pied des textes, d'adopter des textes qui vont aller dans le sens de préserver l'environnement, de préserver, de protéger le Parc national de la Lomami et puis aussi en préservant également les intérêts de nos différentes communautés, les démarches des pairs.
La guerre ne construit pas. Qu'est-ce que vous dites à votre population?
À la population de pouvoir converger vers la paix. Parce que il y a un temps pour tout. On sait qu'il est un moment. Il est maintenant temps que nous puissions nous mettre ensemble pour pouvoir reconstruire notre province. Et cela en attirant les investisseurs qui vont venir. Vous savez, l'argent n'aime pas les bruits. Et si nous voulons assez que les partenaires continuent de nous fuir, il faudrait que nous continuions de nous battre. Et dans l'entretemps, les autres sont en train d'avancer, soit de tirer profit, notamment de ces parcs, pendant que nous continuons de nous lamenter.
Monsieur le député Mateus Kanga, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Ce journal est terminé, madame, messieurs. Mimi Kindou a assuré sa mise en onde. Jacques-Yves Molima et Alain Irung Mouchinge l'ont préparé pour vous. À la présentation, patience, Ngalula Mbombo. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.